Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de Liberté pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez large, c'est-à-dire est-ce que le monde est en train de changer? Finalement, on a déjà parlé de ce sujet-là, mais on va rentrer peut-être un petit peu plus en profondeur, notamment sur la question des États-Unis, parce que nous avons l'impression, c'est pas forcément qu'une impression, que globalement, depuis la Seconde Guerre mondiale et encore plus fortement après la chute du mur de Berlin, après la chute de l'URSS, nous avons connu un empire hégémonique, les États-Unis.
Gentil au début et après la chute du mur de Berlin, beaucoup moins gentil.
Et beaucoup plus hégémonique d'ailleurs.
Beaucoup plus hégémonique et avec un personnel politique différent qui était.
Peut-être un peu plus douteux, effectivement. Et nous avons l'impression, en ce moment, je pense que c'est pas qu'une impression, que cet empire est en train de changer totalement. C'est-à-dire que justement, cette espèce de super classe, alors qu'a commencé peut-être avec la suite de Reagan, c'est-à-dire les premiers hommes de Bush, peut-être ceux de Clinton.
Ben Clinton certainement. Clinton certainement. Et ce qui s'est passé, c'est pas un phénomène curieux à l'époque, qu'on retrouve un peu partout, c'est que ceux qui ont rejoint le camp hégémonique, là, l'Empire américain, etc., étaient pour la plupart originaires de la gauche. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, si vous voulez, tous les Clinton, etc. Et il s'est passé un peu la même chose en France avec les Attali, tout ça qui ont été. La gauche a retrouvé un petit peu, à la fin des années, oui, c'est ça, après la chute du mur de Berlin, sa vieille tendance de vouloir être hégémonique, tyrannique, et un peu comme, et colonialiste.
Tout à fait.
Comme, si j'ose dire quelque part, Clinton et Jules Ferry, même combat, quoi.
Ouais.
Il faut envahir les pays pauvres, il faut leur apprendre à
Effectivement.
vivre, leur apprendre comment il faut s'organiser. Donc on a retrouvé cette espèce de défi extraordinaire à la gauche, que chaque fois qu'elle arrive en position dominante, quelque part, c'est pas à cause d'eux qu'on avait gagné contre le communisme, au contraire, mais ils se sont emparés de ça pour essayer d'envahir tout le monde et de taper sur tout le monde avec en se sentant en plus de bonne compagnie, quoi, ce qui a été un petit peu agaçant, quoi.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, c'est que cette classe, on va dire ces types-là qui se sont beaucoup révélés autour du mouvement de 1968.
Oui.
Donc c'est les Attali, les Bernard-Henri Lévy, enfin bref, toute cette clique-là que tout le monde connaît très bien, qui était
Et aux
trotskiste,
États-Unis, il y avait les
maoïste à
mêmes
cette
qui étaient
époque.
aussi
Oui,
trotskistes,
tout à fait.
qui étaient d'anciens hommes de gauche et qui ont été ceux qui ont le plus violemment soutenu les présidents de gauche aux États-Unis, Biden, etc. C'était tous
Ouais.
des gens qui avaient commencé à l'extrême gauche du parti, puisque certains d'entre eux étaient à nouveau trotskistes, etc.
Ouais.
Donc il s'est passé ce phénomène curieux, c'est quand le modèle du communisme s'est effondré. Ils n'en ont pas tiré la leçon que ce qui avait gagné, c'était les nations qui s'étaient révoltées contre le communisme à l'intérieur du communisme. Ils en ont tiré comme conclusion que, non, le communisme n'avait pas su bien gérer son domaine et qu'eux, ils étaient des talents pour gérer l'ensemble du monde et créer une mondiocratie, si j'ose dire, quoi. Et c'est ça qui est en train de s'écrouler. Donc, oui, c'est intéressant, tout est en train de bouger, mais c'est toujours la même histoire qui existe depuis la Bible, si vous voulez, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire qu'ils veulent créer un centre de pouvoir, faire monter une tour qui ira jusqu'au ciel, et eux, ils seront là où ils donneront les ordres au petit peuple en dessous, et à chaque fois, ça se ratatine. Parce que l'homme est ainsi fait qu'il aime être commandé par des gens qu'il a confiance dans son village, mais qui veut pas être commandé par un gars qui est à 10 000 km et qui verra jamais dans sa vie, quoi.
Ouais, tout à fait. Et du coup, on a vraiment l'impression que cette ère qui a commencé du coup essentiellement avec la chute du mur de Berlin, c'est terminé en fait avec Joe Biden dernièrement. Qu'il y a eu presque comme un premier coup de canon en 2016 avec la première élection de Trump, mais on avait senti, d'ailleurs, on en a
Et le
déjà parlé.
Brexit.
Et le Brexit,
Le
oui,
Brexit qui a été
tout à
quand même un
fait,
truc très important, ça.
effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais c'est-à-dire que c'était presque une sorte de faux départ, peut-être un peu trop en avance, dans le sens où Certes, Trump avait été élu président. Oui,
ils se sont regroupés, ils ont tout fait, ils ont essayé de le tuer, ils ont essayé de l'empêcher de se présenter. Enfin.
Oui, et ils ont presque plus ou moins réussi, en tout cas en 2020, ils ont réussi à le foutre dehors. Et derrière, en revanche, ils se sont totalement effondrés. Ils n'ont pas réussi à maintenir d'abord Joe Biden au pouvoir. Et ensuite, c'est Kamala Harris qui n'a pas su transformer l'essai. Et
puis, visiblement, ils n'ont pas pris leur décision. Ils avaient en face un gars qui était... C'était comme le... Vous savez, le type sur qui vous tapez, la petite statue qui renvoie, il revient, il est tapé, pauvre, il est tombé, puis revenait, il est indestructible, ce gars-là, quoi.
Ouais.
Alors, j'ai une grosse voix, c'est parce que j'ai un rhume.
Oui, bon, on vous pardonne. Moi aussi, ça m'arrive d'en avoir, donc...
J'ai une grosse voix, donc je le fais pas exprès, c'est pas pour parler intelligent ou...
Oui.
C'est juste parce que j'ai un rhume.
Ouais. Mais d'ailleurs, c'est assez révélateur. La semaine dernière, il y a deux journalistes de CNN assez réputés qui ont sorti un bouquin sur la présidence Biden et en fait, notamment sur comment les différentes maladies de Joe Biden ont été cachées du grand public.
Ça fait partie du...
Voilà, et ce, pas que en 2024, mais bien sûr, dès 2020, dès sa première campagne en 2020. C'est-à-dire qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte. On avait le Covid. Et donc, en fait, Joe Biden a pu faire campagne depuis sa cave. Il était juste en visioconférence sur Internet, avec les différentes chaînes, etc. Et donc, tout a pu être absolument manipulé, scripté, remonté, charcuté dans tous les sens pour cacher le fait qu'il était déjà un petit peu sénile, moins qu'à la fin, mais il était quand même un peu quand même. Il présentait des premiers symptômes, il n'était pas dans une forme olympique. Et ça, il y a deux journalistes de CNN qui l'ont largement documenté. Donc, on a l'impression un peu aujourd'hui que, alors que c'était... une poupée fétiche un petit peu de la gauche, ce Joe Biden.
Ça avait toujours été une crapule, ça devait toujours être type odieux, c'est celui qui avait essayé de faire tomber le Thomas, le type qui était noir, en dénomination, à la Cour suprême. Biden avait été absolument odieux, mais à un point, si vous voulez, d'entacher l'honneur de l'autre et tout, qui s'était plaint. Donc Biden, ça a toujours été une petite ordure politicienne. C'est à peu près l'équivalent du point de vue moral de, je sais pas, si je vous disais un type de gauche qui vous n'avez pas confiance, qui vous penseriez être en France.
Il y en a un paquet quand même.
Je sais, un paquet en France.
Je crois que ce serait plus facile de faire la liste des personnes de gauche en qui j'ai confiance qu'en ceux en qui j'ai pas confiance.
Non, je me dis, vous avez envie de vous appuyer sur lui, un peu comme vous pourriez avoir envie de vous appuyer sur Bayrou, quoi, vous voyez. C'est...
Ouais. Et encore, peut-être que je préférerais Bayrou, je sais pas. Faudrait voir.
Mais c'est vraiment... Bon. Donc, si vous voulez, ça a toujours été un personnage odieux, corrompu, qui se réclamait toujours des gens du camp du bien. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que maintenant, la question qu'on se pose, comme on sait qu'il était quasiment incompétent, sauf qu'on lui faisait deux ou trois piqûres pour le relancer pendant une demi-heure, qui a gouverné, qui a pris ses décisions, dont certaines ont été très importantes, comme de continuer la guerre en Ukraine, par exemple, en mars.
Ouais, bah globalement, ce que les deux journalistes expliquent, c'est que son entourage, c'est-à-dire sa famille proche, essentiellement son épouse et, on va dire, ses conseillers très proches, l'ont totalement mis dans une bulle par rapport au reste du Parti démocrate. C'est ce pourquoi le Parti démocrate a autant bataillé pour démettre Joe Biden de sa candidature. Et c'est pour ça que, en fait, il a été vraiment maintenu dans une bulle.
Ben, ils avaient qu'à voir, si vous voulez. C'était assez simple. C'est pas lui qui a choisi Kamala Harris, c'est le Parti démocrate. Donc ils avaient qu'à pas prendre cette andouille. Qui était inéligible partout, qui avait d'ailleurs toujours été jamais gagné une élection, sauf en Californie, qui est un État uniparti. Enfin, je veux dire, donc si vous savez que le type que vous mettez en pouvoir risque de ne pas être en état de gouverner pendant 4 ans, vous essayez que la qualité du suivant soit à peu près à la hauteur.
Oui.
Vous ne mettez pas une Kamala Harris comme vice-présidente.
Oui, c'est pas du tout ce qui a été assuré en 2020.
Donc, non, c'était une tentative par une toute petite clique de capturer le pouvoir et de l'exercer. Sans aucune légitimité démocratique, parce que personne ne les avait élus à rien du tout, quoi.
Et je voudrais faire une sorte de parallélisme historique entre Donald Trump, ce qu'il incarne comme mouvement aujourd'hui, et Andrew Jackson. C'est-à-dire que Andrew Jackson, c'est une figure, alors qu'elle est un petit peu controversée de l'histoire américaine, mais néanmoins, c'est incontestablement un des présidents les plus importants de son histoire. Et en fait, sa présidence intervient après une ère politique qu'on pourrait qualifier de comment dire fédéraliste contre Jeffersonien en quelque sorte. Certains considèrent que Andrew Jackson en fait arrive et qu'il crée une nouvelle ère, une ère démocratique. C'est-à-dire que sous son double mandat, le nombre de citoyens qui étaient en fait qui étaient mêlés au processus démocratique a été multiplié par 7. Donc d'abord à l'élection de 1824, Jackson se présente et alors il obtient 43% des suffrages face à 3 autres candidats et c'est finalement John Quincy Adams qui remportera l'élection par un jeu d'alliance avec les 2 autres candidats. Donc les partisans du parti républicain-démocrate à ce moment-là se scindent, les partisans de Quincy Adams fondent le parti national républicain, ceux de Andrew Jackson fondent le parti démocrate. On voit parfaitement à ce moment-là ce que républicain et démocrate signifient en fait, c'est-à-dire que les républicains estiment à l'origine que l'ordre institutionnel est est plus important que la voix du peuple. Les démocrates derrière Jackson estiment que...
C'est important, oui. C'est important ce que vous dites, parce que quand vous parlez à des républicains de qualité, il y en a, ils vous disent que les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais une république.
Oui.
Et les démocrates d'aujourd'hui disent que c'est une démocratie, c'est-à-dire que, en quelque sorte, les républicains pensent que c'est la Constitution qui gère.
Oui.
Et pas la majorité. Mmh. Et les démocrates essayent toujours de prétendre que c'est la majorité, qu'ils représentent la majorité, alors que les autres représentent une minorité.
Ouais.
L'inconvénient, c'est ce qui leur est arrivé avec Trump ou avec Jackson, c'est quand le gars qui est élu, à l'évidence, représente la majorité.
Ouais.
Et que eux, ils ne le représentent pas, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas grand-chose à vendre. Hein.
Oui. Et ben, c'est exactement ce qui se passe.
C'est exactement ce qui se passe. C'est un retour historique. Et c'est intéressant parce que c'est un peu les deux histoires des États-Unis. C'est que vous avez des États-Unis qui ont une mission messianique. Vous savez, ils doivent apporter le bonheur sur Terre.
Ouais.
Ça, c'est les démocrates. Puis les républicains, ils trouvent que si ça marchait bien à Memphis, ils seraient très contents, quoi. Ils n'ont pas tellement d'aller voir ce qui se passe en Amérique latine ou en Europe. Et donc, c'est les deux idées. Et la base des républicains, c'est quand même beaucoup de se méfier des élites, aussi bien à Washington qu'à New York, quoi. Quelque part, ils les détestent.
Oui, ouais, absolument.
Et bon, les autres le rendent bien aussi.
Tout à fait, on retrouve totalement ça chez Jackson. Donc en fait, en cela, Jackson est un peu le premier président populiste de l'histoire des États-Unis. D'ailleurs, c'est le premier président aussi à gagner au suffrage universel, c'est-à-dire qu'avant le suffrage était un petit peu différent. Et donc c'est à l'élection de 1828 que cette fois-ci il obtient une majorité extrêmement claire et donc cette fois-ci il est élu président. C'est d'ailleurs le premier président n'ayant pas appartenu au cercle des fondateurs, c'est le premier président d'extraction modeste aussi. D'ailleurs, son investiture est un véritable succès. La foule est telle qu'elle pénètre dans la Maison Blanche au point que, selon la légende, Andrew Jackson a dû s'échapper par une porte défilée pour pas se faire alpaguer par.
C'est arrivé à Clinton aussi.
Et
des choses qui arrivent dans les gouvernements.
Donc, entre autres, durant ces deux mandats.
Le président de la République française qui est mort dans des conséquences un peu spéciales, vous savez.
Oui.
On lui avait demandé.
Oui, effectivement. Et donc, il acte l'expulsion des Amérindiens des États de la côte Est, en fait, pour les mettre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Oklahoma. Il met fin à la Second Bank of the United States. Alors ça, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus.
Bah, c'est toujours, vous savez, des gens comme Jefferson, justement, se méfiaient terriblement des banques. Et il y a des articles de Jefferson que vous devriez lire en disant que le but des banques, c'est de vous mettre en esclavage, etc. Donc c'est le côté... ils n'aimaient pas du tout les banques. Et, l'embêtant avec les banques, c'est qu'en général, elles ont beaucoup d'argent. Donc, elles ont plutôt tendance à favoriser les politiciens qui sont favorables aux banques.
Oui. Oui,
et donc, tous les politiciens avaient essayé de créer une banque des États-Unis parce que c'était le début de la Banque d'Angleterre, de la Banque de France. La Banque de Suède avait été la première à être créée au 18e. Il y avait une tentative de créer une banque nationale, ce qui veut dire aussi quelque part la fin du fédéralisme. Et surtout, c'était le bimétallisme aux États-Unis. Il y avait une espèce de... entre l'or et l'argent, qui avait une espèce de ratio. Donc, comme on trouvait beaucoup plus d'argent que d'or, ça permettait de pallier à cet inconvénient qu'à l'or qui en est pas assez. Donc, le bimétallisme, c'est un système un peu tordu, mais ça marchait bien. Et ça permettait surtout le pouvoir de rester en place, tandis que, en place locale. Donc, si j'ose dire, là, autant les banques régionales, les banques locales sont importantes pour le développement du coin, parce qu'elles rassemblent l'épargne, autant si elles sont une filiale d'une grande banque qui est très loin, la filiale remonterait tout le pognon. Ben, la grande banque est très loin, puis il n'y en aura plus rien pour ici, et ça servira à des aventures.
Ouais.
Donc, quelque part, pour moi, ne pas aimer les banques, c'est presque un signe de santé démocratique. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est... Ouais. Ben, c'est totalement le raisonnement de Andrew Jackson, c'est-à-dire qu'on crée une institution qui est en dehors de tout contrôle et qui, en revanche, elle, va être en capacité de contrôler pas mal de décisions des politiciens.
Et, mais ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que, comme je souvent expliqué, ce qui compte dans le capitalisme, c'est qu'il est très bon à créer de la valeur. Mm-hmm. Et pour ça, il faut qu'il y ait une création de monnaie qui soit raisonnable. Mais avec le système de banque centralisée auquel ils aspirent, c'est que la création de monnaie précède la création de valeur. Ouais. Alors que dans un système normal, la création de valeur précède la création de monnaie. Donc c'est un... En fait, c'est une astuce faite par les gens puissants pour essayer de s'attraper, de capturer la valeur créée par les petits gens.
Oui, oui. Effectivement.
Si vous commencez à me faire dire du mal des banques, on n'est pas rendu.
Oui, c'est pour ça qu'on passe à la suite. Donc, il remporte l'élection suivante en 1832. En janvier 1835, la dette publique fédérale des États-Unis est intégralement remboursée. Mm-hmm. Et ce sera d'ailleurs la seule fois de son histoire que mm-hmm. ce sera le cas. Le 30 janvier de la même année, Andrew Jackson est victime de la première tentative d'assassinat sur un président américain. Les deux pistolets de l'assaillant s'enrayent et Andrew Jackson, encore une fois selon la légende, lui aurait mis un coup de canne sur la tête en guise de réponse. En 1836, Jackson met son veto à la création d'une banque centrale et donc voilà, encore une fois on revient sur la même chose.
Il faudra attendre 1913 hein,
pour
réussir enfin à créer ça, et à part ça, à partir de ce moment-là, les États-Unis, allez, soyons brutaux, sont cessés d'être une démocratie, quoi. Dès le moment qu'il y a une banque centrale, c'est fini.
Ouais, donc la démocratie américaine est morte en 1913, quoi.
En 1936, par là. En 1913, c'est ça, ouais. Certainement, 1913.
Ouais. Ce Andrew Jackson, il se méfie fortement des politiciens professionnels, des institutions sans contrôle, on vient d'en parler. Sous sa présidence, le nombre de citoyens participant à la vie politique est multiplié par 7. Donc, vous voyez très bien où je veux en venir, c'est vraiment un président populiste, quoi. C'est-à-dire qu'il avait déjà aussi compris les racines aussi expliquant la guerre de sécession, c'est-à-dire sur fond un peu de tarifs douaniers, c'est-à-dire que les États agricoles du Sud voulaient peu de tarifs pour pouvoir exporter leur production, tandis que les États du Nord, soutenus par notamment les politiciens des grandes villes, voulaient garder des droits de douane élevés pour justement développer l'industrie sur place. Jackson avait très bien compris que si en fait les deux n'étaient pas réconciliés et qu'on ne donnait pas un petit peu de ce qu'il voulait au Sud, le Sud ferait une confédération des États du Sud tout simplement, et que en fait les États-Unis deviendraient deux États séparés. Ça amènera par la suite un clivage politique qui tiendra en fait justement jusqu'à la guerre de sécession, c'est-à-dire les républicains soutiennent du Nord industriel et les démocrates soutiennent de la plantation globalement au Sud.
Oui, alors c'était très intéressant parce que on voyait qu'aujourd'hui par exemple l'armée américaine, qui est une institution qui est... c'est l'armée de la Confédération. C'est-à-dire que tous les gars qui vont dans l'armée, c'est des gars qui sont dans l'Oklahoma, dans le Texas, dans la Virginie, etc. Puis alors des Yankees, il n'y en a presque pas.
Non, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, vous avez ça. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années Reagan, tout le Sud était... Il y avait une partie du Sud qui était démocrate.
Ouais.
Et là, c'est ces démocrates qui avaient fait passer toutes les lois pour empêcher les Noirs de voter, etc. Et puis, le Sud a été forcé de faire les lois anti-John Crow, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand les Noirs ont pu voter, le Sud est devenu républicain, ce qui était complètement nouveau. Et ça fait complètement basculer l'équilibre politique des États-Unis, parce que normalement, les démocrates, c'était le personnel travaillant des employés dans le Nord, là, dans l'Est, et les Noirs.
Ouais.
Et puis ça a complètement basculé, c'est devenu... Les Noirs, en remontant vers le Nord, sont tous passés démocrates. le Sud est devenu républicain. Mmh. Et ben, il n'y a plus, pour ainsi dire, de travailleurs normaux qui soient démocrates, ils sont tous devenus républicains. Ouais. Donc il y a eu un basculement à ce moment-là, en l'espace des 30 ou 40 dernières années, où une chatte, il ne retrouvait pas sceptique. Quoi. Ouais. Ceux qui étaient républicains sont devenus démocrates, ceux qui étaient démocrates sont devenus républicains.
Il y a eu totalement une inversion de la polarisation, notamment sous Johnson, en fait.
Sous Johnson, c'est là que ça a commencé.
Kennedy Johnson.
Et ça avait commencé bien, bien avant. Si vous regardez les votes, etc., ça avait commencé, en fait, sous Franklin Roosevelt, où les Noirs ont commencé à voter massivement pour les démocrates. Avant ça, ils ne votaient pas pour les démocrates. Mais Roosevelt a réussi à faire basculer la saquée des Noirs. Donc, vous avez ces espèces d'immenses mouvements de fond qui se passent aux États-Unis. Et aujourd'hui, si on essaie de réfléchir à ce qui se passe, ben, le mouvement de base, me semble-t-il, c'est un mouvement qui est de détestation de la classe dirigeante. Mmh. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire que ça appelle en conséquence politique la fin de la centralisation du gouvernement vers Washington et New York. Et le retour des États fédérés. Vous voyez ce que je veux dire?
La décentralisation
des décisions. Donc logiquement, on devrait aller vers un monde beaucoup plus décentralisé aux États-Unis. Alors je ne sais pas si c'est ce que Trump va arriver à faire, mais je pense que c'est ce qu'il a sans doute envie de faire. C'est...
Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu ce même paradoxe, c'est-à-dire que Jackson, lui, il ne voulait pas avoir affaire aux politiciens du Congrès, etc. Et lui, il avait vraiment ses hommes de confiance qu'il avait dans son bureau. Son petit gouvernement, il disait qu'il prenait la moitié de ses décisions dans sa cuisine, quoi, avec ses copains, quoi, ses hommes de confiance. C'est-à-dire qu'on a... à Washington, une extrême concentration du pouvoir autour de un individu, mais en revanche, cet individu est vraiment beaucoup plus connecté à ce que le peuple demande. Là où, en fait, le système opposé, c'est on a beaucoup plus d'individus qui ont du pouvoir, notamment les parlementaires.
Mais on ne sait pas très bien qui prend la décision.
Voilà, exactement. On ne sait pas trop quels sont leurs intérêts,
c'est ce que disait Clemenceau, il disait... prendre une décision, il faut un nombre impair. Et puis ensuite...
Trois, c'est déjà trop.
Donc, si vous voulez, c'est un peu ce que disait Jackson. C'est un peu un truc de militaire. Non, ouais. On va pas prendre une décision d'attaquer ou de reculer en fonction de la majorité. Hein. C'est le chef qui prend... Donc, cet éclatement du pouvoir qui s'est passé aux États-Unis, ça implique aussi que ce qui reste du pouvoir doit être extraordinairement efficace et extraordinairement concentré.
Absolument. C'est tout à fait ça.
Et on va voir si Trump réussit à faire ce coup-là, mais on verra. Ouais. Je ne sais pas.
Et là où Jackson me fait un peu penser à Trump aussi, c'est qu'il avait déjà... On pourrait croire que tout ce qui est diabolisation, etc., c'est très propre à notre époque, avec les réseaux sociaux, etc. Mais à l'époque, il était accusé de meurtre et de cannibalisme même. Alors le meurtre, pourquoi? Notamment, c'est parce que il avait provoqué en duel un homme qui avait insulté sa femme.
C'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses, absolument. Et en l'occurrence, l'État dans lequel il a fait un duel avait déjà interdit les duels. Or, ce qu'a fait Jackson, c'est qu'il a tiré au pistolet deux fois. Il s'est pris une balle dans... Je sais plus où, mais enfin, il s'est pris une balle. Et après, il a retiré et il a tué son opposant. Et en fait, derrière, l'affaire n'a pas été réglée légalement parce que le duel en lui-même était illégal et donc on n'a pas considéré que c'était un meurtre. Enfin, c'est à cause de ce truc-là qu'il a été accusé de meurtre.
Si vous regardez les westerns, il y en a eu des duels.
Ah oui, oui.
Je veux dire, le coup du... Le train sifflera trois fois et tout, il y en a eu des duels. Hein.
Oui, c'est clair. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne histoire. Franchement, quelque part, c'était pour des bonnes raisons.
Le dernier duel en France avait eu lieu, c'était entre un journaliste et Defer.
Oui, Gaston Defer, oui.
Gaston Defer, je sais pas pourquoi il s'était engueulé, mais...
Ouais.
Moi, je trouve que j'aimerais bien défier en duel deux ou trois de ces gars-là. Là.
Oui, tout à fait.
Bah, je ne suis pas bon, mais
c'est,
je serais meilleur qu'eux.
C'est... comment s'appelle-t-il l'africaniste Bernard Lugan qui a écrit il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, un petit essai qui est un éloge du duel.
Qui il aimerait défier en duel.
Qui, il avait défié, je me demande si c'était pas Gérald Darmanin qui l'avait défié ou un ministre quelconque.
Il n'y a pas photo parce qu'il mesure 2 mètres, lui, Gérald Darmanin, il mesure 1m40. Donc, à l'épée, il n'avait pas une chance.
Oui, je pense que Bernard Lugan, il a dû faire vraiment de
l'épée. Il a dû rendre le plus petit.
Donc, à mon avis, il devait avoir un avantage considérable, effectivement. Mais oui, effectivement, moi, je suis assez favorable au duel. C'est une sorte de violence, mais très contenue, très civile, en quelque
Contenu,
sorte.
et ça veut
Et
dire que
volontaire.
ça, et ça veut dire aussi qu'il y a des choses que le journaliste ou l'homme politique ne peut pas dire
Oui.
sans risquer de se retrouver
Oui, il
avec.
faut assumer
Il faut
derrière.
assumer derrière, voilà.
Ouais. Du coup, on peut pas insulter n'importe qui, quoi. Voilà, n'insultez que les personnes que vous pouvez battre en duel, quelque part.
Qui sont myopes, qui voient rien, qui sont sourds, enfin que
Qui ont un
des.
pied beau, enfin bref.
Voilà.
Effectivement. Et ensuite, je voudrais parler de manière un petit peu plus contemporaine, en fait, de la situation financière des États-Unis.
Ça, c'est très inquiétant.
Parce que effectivement, elle est assez inquiétante, c'est-à-dire que la dette, alors je sors quelques chiffres pour qu'on s'y retrouve, la dette, elle est à 36 trillions de dollars, c'est-à-dire que si vous préférez, c'est 36 000 milliards de dollars, tandis que le PIB est à 29 trillions de dollars, donc la
C'est à peu près
dette.
les mêmes ratios que la France.
Tout à fait, absolument. C'est-à-dire que la dette en pourcentage du PIB, c'est 124%. En France, à peu près 120%. Donc, on s'y retrouve à peu près. Et le déficit par an, c'est 1900 milliards, soit 6,2% du PIB. Et c'est là que les choses sont un petit peu plus compliquées. Là, j'ai mis un petit graphique là avec les histogrammes en rose, où on voit que le déficit actuellement est de pire en pire, donc à 6% et quelques. Et là, ça va être vraiment le plus gros défi de Trump. Derrière, je voudrais mettre aussi
Et ce qui est
les.
marrant, c'est qu'il n'a pas l'air d'en parler. C'est ça qui est étonnant.
Alors, Trump n'en parle pas directement. Scott Bessent en parle un petit peu.
Moi, mon expérience, c'est que les mesures favorables à la croissance, elles ne marchent pas. Et les dépenses, par contre, elles ont lieu. Donc,
Oui.
ces histoires de. Il n'y a pas d'autre façon de réduire un déficit budgétaire que de couper les dépenses et ou de couper les impôts. C'est une bonne idée.
Ouais.
Et ça, pour l'instant, lui, pour couper les impôts, il est toujours d'accord, mais
Oui.
ma grande tristesse, il n'est pas. C'est pas Milley, quoi.
Non, c'est pas Milei. D'ailleurs, ça montre à quel point c'est difficile dans un état vraiment très fort comme les États-Unis, comme le sont les États-Unis, de couper des dépenses. Visiblement, le Doge est en train d'échouer plutôt. Ils ont trouvé quelques trucs à la marge avec notamment l'USAID, etc. Ce qui est toujours très bien. Mais sur les dépenses vraiment fondamentales, c'est-à-dire là où ça augmente, c'est notamment dans tout ce qui est le domaine de la santé et de la sécurité sociale. Ça, c'est vraiment les budgets qui prennent le plus de place et qui prennent le plus de place au fur et à mesure du
C'est
temps,
la
quoi.
croissance, c'est 2,8%, ça c'est en termes absolus.
Ouais.
Le taux d'intérêt sur la dette est à 4,5%,
Oui.
ça c'est en termes nominal.
Oui.
Mais si l'inflation est en dessous de 2, mettons,
Ouais.
ben, ça veut dire que la dette croît au plus vite
Bien
ou
sûr.
que le PIB.
Bien
Ça veut
sûr.
dire que vous êtes dans une trappe à dette et que vous êtes foutu, quoi.
Exactement. Et ça, c'est ce qu'a dit Scott Bessent dans une interview là il y a quelques jours. Il a dit que en fait, bon, c'est pas hyper grave d'être endetté en soi. Simplement, il faut que l'économie croisse plus vite que la dette. Sinon,
C'est
on est dans une
évident.
trappe à dette. Voilà, c'est une
C'est
évidence.
bien comme les Russes, cette histoire. Hein.
Et donc le problème, c'est que si vous avez un déficit de 6% et quelques, une croissance de 2,8 et des taux d'intérêt qui sont presque à 5, ça va être de plus en plus compliqué de payer les intérêts de la dette. Et donc à ce moment-là, ça va prendre de plus en plus de place dans le
Bon,
budget.
au moins, vous me direz, les États-Unis, ils croissent à 2,5 ou 3%. Nous, on est
Oui,
à zéro.
nous on est à zéro, effectivement. Donc nous, c'est encore plus
Voilà,
grave.
nous, c'est encore plus grave parce qu'on a.
Nous, on stagne.
C'est-à-dire, c'est en fait la partie en France du secteur du PIB privé baisse, et ce qui monte, c'est la partie du secteur public qui est financée par la dette. Donc, au moins aux États-Unis, vous regardez la part du secteur privé dans l'économie américaine, ça reste à peu près à plat, quoi.
Oui, c'est
Il n'y a pas
stable.
une dérive très forte.
Non.
Les autres ont dépensé comme des fous, mais il n'y a pas de. Et donc, je regarde tout ça, je me dis. C'est bizarre que. On n'arrive pas à couper dans des dépenses de. Vous me dites combien c'est monstrueux, les dépenses, c'est donc de 6 750 000 milliards de dollars. J'en sais foutre rien parce que c'est tellement gros que je comprends rien.
C'est ça, c'est 6,7 trillions, quoi.
Trillions, c'est absolument gigantesque. Bon. La sécurité sociale, en
Ouais.
46.
Ouais.
Vous me direz le. La santé, quasiment un trillion. Le taux d'intérêt, bon, 900. Medicare, donc, c'est comme disaient mes amis, l'embêtant avec le budget des États-Unis, c'est que c'est une compagnie d'assurance avec une grosse force de police qui est l'armée, quoi.
Oui, tout à fait.
Mais en fait, le vrai problème, c'est que c'est tout ça, c'est des espérances d'assurance, hein. Mm-hmm. Assurance santé, assurance sociale sécurité, etc.
Oui.
Qui sont pas à leur prix de marché.
Oui.
Et on ne veut pas le mettre en prix de marché parce que ça ferait je ne sais pas quoi.
Oui.
Et donc, la compagnie d'assurance américaine est très mal gérée.
Oui, absolument.
C'est bien d'autres, hein ?
Oui, bien sûr. Bah, si on regarde, en fait, si on regarde l'évolution de ces budgets-là au fil du temps, parce que parfois on parle effectivement du budget stratosphérique de la défense, c'est vrai, mais si on regarde ce que ça représente en termes de pourcentage du budget total, le budget de la défense n'a fait que baisser sur les 40 dernières années. Alors que, justement, tout ce qui est sécurité sociale, santé, etc.,
toutes
ça fait
ces dépenses, si vous voulez rire, hein, je crois que... Medicare, ça a dû être voté dans les années 60, si mes souvenirs sont exacts et tout. Et vous voyez les projections des dépenses que devait entraîner Medicare.
Ouais.
C'était quelques dizaines de millions de dollars, quoi. Ouais. Et on en est à 874 millions.
Ouais, c'est le même milliards. Budget que la défense.
Oui. Donc, ça commence toujours en disant on va prendre une mesure très juste et tout.
Ouais.
Et qui va pas coûter grand chose, tout le monde vote avec enthousiasme, sauf qu'elle ouais. coûte pas grand chose, elle passe à travers du toit. Si vous offrez quelque chose comme la sécurité sociale, qui est un besoin important aux gens, et que ça leur coûte rien, ben je vais vous annoncer une loi de l'économie qui est très, très, très... quelque chose qui est très utile et qui coûte rien. Qu'est-ce qui se passe ?
Quelque chose qui est très utile et qui coûte rien, ça n'existe pas.
Si, ça existe, et la demande devient infinie.
Ah oui, bah oui, forcément, oui.
Si c'est très utile,
oui.
La demande devient infinie.
Oui.
Et donc, la demande sociale devient finie. Et c'est l'écueil auquel se heurtent toutes nos démocraties à l'heure actuelle.
C'est
qu'on a voté des trucs en disant on va vous assurer, on va vous soigner, on va vous aider, etc. Et ça coûtera rien. Oui, on soigne et tout, mais ça coûte pas rien.
Ouais.
Et donc, partout, on est en train d'arriver dans le mur de la réalité.
Ouais.
C'est-à-dire
qu'il y a tout un tas de dérives derrière, forcément.
Donc, il va falloir trouver des trucs pour mettre un prix sur les dépenses de sociales, de sécurité sociale. Ce qui sera la grande histoire de la démocratie dans les années qui viennent.
Oui, tout à fait. Et puis, en plus de ça, c'est un double... c'est encore plus difficile de le faire dans une société vieillissante, parce que justement, plus on a d'individus qui ont plus de 65 ans, plus de 70 ans, plus on a de dépenses de santé. Et ça, c'est pas forcément facile à faire passer d'un point de vue démocratique aussi. Parce que les gens sont persuadés à tort ou à raison de se dire mes médicaments, ça va coûter hyper cher.
Ce couillon de Jeeves, le chien, là... quand il arrive ici au bureau à 10h du matin, il vient de crapahuter pendant une heure dans la avec sa Emmanuel qui l'amène. Bon, il arrive ici et il a le droit inscrit dans la Constitution que j'aille le promener de toute façon. Donc si quelqu'un a l'habitude d'avoir quelque chose auquel il a droit et que vous lui enlevez ce il est très fâché, il nous fait une tête au carré, il pousse des cris, qu'est-ce que c'est, je sors pas. Personne ne m'aime. C'est la même chose pour tous les votants.
Ouais.
Donc, le vrai problème qu'on va avoir, c'est lui qui a eu l'Argentine, c'est la partie orange de votre courbe, là, va continuer à exploser parce qu'il n'y a aucune raison de faire la moindre économie, c'est même pas possible.
Ouais.
Et la partie blanche va monter à son allure la productivité plus le nombre de travailleurs.
Ouais.
Pas trop difficile, vous savez. C'est...
Oui.
Et les deux vont s'écarter de plus en plus. Donc,
on
sait qu'on a devant nous une crise de la social-démocratie.
Oui, c'est obligatoire.
Dans tous nos pays, quoi. Ouais. Sauf ceux qui ont réussi à régler le problème dès le départ, comme peut-être un peu les Suisses ou les à Singapour, etc., qui ont trouvé des façons de mettre les deux en équation, en parallèle. Donc, alors je me disais que peut-être Trump allait faire quelque chose. Mais remarquez, ce qui est bien avec Trump, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous attendez juste 24 heures, il va changer d'avis. Donc,
oui, c'est ça, c'est pratique.
C'est assez pratique. Donc, j'ai pas l'impression qu'il soit obstiné dans quoi que ce soit. Mais il y a un moment où il va falloir qu'il y ait une espèce de consultation nationale dans chaque pays en disant qu'est-ce qu'on fait avec la partie orange, quoi.
Oui.
Et surtout s'il y a des étrangers qui arrivent et qui ont des droits.
Oui, en plus de ça, oui, bien sûr.
Qui n'ont pas été financés, donc vous dites, mais c'est n'importe quoi, quoi.
Oui, c'est clair. Et ça, évidemment, l'administration, elle en a conscience. Et en tout cas, ils ont annoncé dès le début qu'ils voulaient essayer de régler ce problème. Visiblement, c'est plus difficile.
Ils sont à 8% de déficit aujourd'hui avec le nouveau budget qu'ils présentent.
Oui.
8% de déficit, et les gens ont poussé des cris quand ils étaient à 7,5 il y a un an, en disant que c'était irresponsable, et pas. Ils présentent un budget, ils sont encore plus en déficit que l'an dernier. Non, mais vous dites, arrêtez, mec.
Ils prévoient des augmentations de dépenses, notamment dans le domaine de la défense, où ils veulent faire passer le budget de la défense au-dessus du trillion.
Vous êtes complètement cinglé.
Voilà, et derrière, il y aura certainement moins de recettes, puisqu'ils proposent des exemptions de taxes.
S'ils réduisent les taxes dans les endroits, peut-être ça déclenchera des croissances, mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire.
Oui, mais ça, il n'y aura jamais une croissance de 6%, quoi. Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, mais c'est ce qu'il faut. Cette partie orange qui fait. C'est de la folie, quoi. C'est absolument de la folie. Puis alors. À quoi ça sert? Ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez emprunter plein d'argent, allez aux Chinois, aux Japonais, à tous ces pays de l'Asie là-bas. Ils vont vous le prêter, peut-être. Et ensuite, vous allez leur rentrer dedans parce qu'ils ont des tarifs qui sont en compétitif. Parce que c'est vous qui les défendez.
Ouais.
Donc peut-être pour que les États-Unis soient plus compétitifs, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de défendre les autres, avec un budget de 1 000 milliards de dollars, qui est une histoire de fou, et avec lequel ils ont perdu toutes les guerres, depuis la guerre de Corée, qui était un match nul, quoi. Donc il y a peut-être un moment, vous ne pouvez pas prétendre, si vous êtes Trump, que vous allez revenir aux États-Unis, aux fortress américains, et continuer à dépenser de l'argent comme si vous pouviez l'emprunter, que ça vous coûte rien, ce qui a été le cas pendant 40 ans, mais ce qui n'est plus le cas.
Ouais.
Donc il y a une espèce de contradiction. On a l'impression que Trump n'a pas réussi à choisir entre la forteresse américaine ou l'Empire. Il continue à dire je vais payer pour l'Empire.
Il joue sur les deux tableaux, effectivement.
Oui, mais jouer sur les deux tableaux, c'est une moyen de...
Ouais.
De se péter la gueule, quand même.
Parce qu'en plus de ça, là, dans tout ce que j'ai évoqué, j'ai pas non plus évoqué le projet du dôme de fer américain. Parce que pareil, le dôme de fer américain, c'est quasiment un trillion, selon quelques estimations, sur 20 ans.
Oui, mais c'est très joli, le dôme de fer, on peut rigoler. Faire un dôme de fer au-dessus de Jérusalem,
oui,
c'est pas trop grand.
Oui, mais c'est pour ça que ça coûterait forcément extrêmement cher.
Mais au-dessus des États-Unis, mais c'est n'importe quoi, c'est la moitié de l'espace aérien mondial, quoi. C'est ce que disait Churchill, les Américains sont merveilleux, ils prennent toujours les mauvaises décisions, et quand ils peuvent vraiment plus rien faire d'autre, ils prennent la bonne. Donc je pensais qu'on
peut-être
était...
Peut-être qu'un jour, ils seront dos au mur et ils seront obligés de...
C'est peut-être pas Trump, ce sera peut-être son successeur. Mais peut-être. Moi, j'ai espéré que ça serait Trump.
Ouais.
Je commence à avoir des doutes.
Non, mais en fait, le truc, c'est
et
que...
Plus j'aurai de doutes,
ouais.
Moins il faut avoir d'obligations et de dollars.
Ouais. Mais ça va être aussi un problème, parce qu'effectivement, plus ils vont avoir ce souci de budget... Plus on va avoir, c'est assez symptomatique. Récemment, Fitch a dégradé la note de la dette américaine. Alors c'était la dernière à l'avoir notée en triple A ou en équivalent triple A. S&P l'avait déjà dégradé en 2011, Fitch c'était en 2023. Et simplement, c'est assez logique. Effectivement, plus ils ont un problème de déficit, plus ils ont un problème de dette, plus ils vont avoir des intérêts importants, plus ça va être compliqué de payer les intérêts. Et donc derrière, le taux aussi sur la dette va faire qu'augmenter, puisque il y a une prime de risque dessus, et donc ça va être encore plus difficile de payer les intérêts, etc.
Cette dette depuis la crise asiatique, la différence entre l'orange et le blanc sur votre graphique là, ça a été payé par les excédents d'épargne du reste du monde, en particulier de l'Asie, qui avait besoin d'acheter du pétrole en dollars, donc qui avait besoin de dollars et qui acceptait d'avoir des surplus. Vous connaissez l'histoire. Mais à partir du moment... Donc les taux d'intérêt aux États-Unis étaient plus bas que ce qu'ils auraient dû être, puisque vous aviez cet excédent d'épargne de l'Asie qui venait s'investir aux États-Unis.
Tout à fait, parce que le dollar avait une place particulière dans le monde.
Une place particulière, c'est fini. Donc ça veut dire qu'ils vont plus investir pour des raisons. Pour acheter du pétrole, ils peuvent acheter le pétrole avec leur propre monnaie. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt réels vont monter aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 4%, c'est-à-dire à peu près à 1,5 ou 2% réel. Mais en fait, on va aller à 3 ou 4 réels. Et donc à ce moment-là, fin de la musique, quoi. Donc ce qui m'étonne, c'est que, j'ai pas fait de longues études scientifiques, mais si vous avez une exponentielle qui croit à 4% et l'autre qui croit à 1%, vous dites, il y a un moment... Ou ça va pas.
C'est la 1%, elle va plus pouvoir payer, c'est la 4%.
On va pas prêter au gars qui gagne du 1% si on lui fait payer du 4%.
Ouais.
On est idiot. Donc, ce qui me fascine dans tout ce qui se passe dans nos social-démocraties, c'est le côté inéluctable d'une énorme crise,
ouais,
que, pour ainsi dire, personne ne veut reconnaître.
Ouais.
C'est ça qu'il me dit. Je me dis, mais ils sont fous tous, ou c'est moi qui vais. Qu'est-ce qu'il. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on parle quand même de 8% du déficit américain, quoi. C'est ouais. Du PIB américain, 8%, ouais. C'est monstrueux, quoi.
Oui, et ça varie extrêmement vite. Globalement, depuis le Covid, la dette en pourcentage du PIB explose, quoi.
Oui, parce qu'on a donné des tas de gentillesse à tous les gens qui votaient. Mais il n'y a personne. Donc, c'est pour ça que je suis. Dans le domaine financier, je suis tellement troublé, c'est que quand je regarde ça, qui est un très bon graphique d'ailleurs, je me dis, bon ben, c'est des gens pas sérieux.
Non, ben non.
C'est des gens pas sérieux, donc il faut rien avoir. C'est des gens pas sérieux, vous pouvez peut-être avoir des actions d'Amazon ou de Microsoft, ça je veux bien, mais c'est un pays qui va vers un appauvrissement inéluctable. Et c'est vrai de la France aussi, c'est vrai. Donc, et qu'il ne puisse pas y avoir des hommes politiques qui se réunissent entre eux et qui disent, les gars, voilà le problème, vous devriez montrer sur l'écran, là, voilà le problème, vous voyez, ça ne va pas marcher, parce ouais. qu'il y a comme un trou, là.
Ouais, il y a un trou, et le trou, il prend de plus en plus de place.
Le trou, il devient de plus en plus l'océan Pacifique, et donc, vous dites, bon, ben, on pourrait peut-être essayer de voir comment on pourrait gérer ce problème. Et si vous trouvez une façon de le gérer sans réduire, mais ce que vous disent tous les crétins de gauche, c'est qu'il n'y a qu'à augmenter les impôts. Mais si vous augmentez les impôts, la partie de gauche de la partie grise, elle va baisser.
Oui, si on a un effet l'affaire, effectivement.
Si on a un effet l'affaire, donc augmenter les impôts, c'est la mauvaise solution.
Oui. Oui, parce qu'en plus de ça, même si temporairement on arrive à accroître la zone mais blanche, ça va quand même appauvrir les citoyens.
Ça va appauvrir les citoyens. Donc, je regarde ça, je me dis, mais on a créé une génération qui ne sait pas faire la différence entre l'impression de monnaie et la création de valeur.
Oui.
Et ça, c'est mortel.
Oui.
C'est mortel, c'est le péché mortel de toute démocratie.
Oui. Oui, bah eux, ils voient, s'ils arrivent à accroître la zone orange, pour eux, c'est un succès.
Oui.
Ils annoncent davantage de dépenses sociaux, davantage de budget dans la défense, etc. Alors, on sent en sécurité, bon, tout ce qui est sécurité sociale, santé, médicare, etc.
Je vais vous lire les grands postes, c'est incroyable. Bon.
Oui.
Donc, vous avez la sécurité sociale, vous avez la santé, vous avez les taux d'intérêt, vous avez Medicare, ce qui est une autre forme de sécurité sociale, vous avez la défense nationale, ça, on n'en parle pas. Income Security, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça me paraît encore un truc bidon. Le truc pour les vétérans.
Les vétérans.
Ensuite, l'éducation, et voilà. Donc, la quasi-totalité du budget américain, c'est des transferts sociaux.
Oui, en très très grande partie, oui.
Donc, la solution, c'est de réduire les transferts sociaux, quoi.
Oui, absolument.
Mais on ne peut pas.
Oui.
Démocratiquement, on ne peut pas.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors là, je ne sais pas. J'aimerais bien être...
Comment vous ne savez pas ?
Bah, il faut réduire les transferts sociaux. Enfin, il faut le faire quand même. C'est-à-dire que, visiblement, il y a des blocages, soit politiques, soit institutionnels, j'en sais rien. J'aimerais bien être une petite souris à Washington pour savoir exactement ce qui se passe dans la tête des gens, puisque... En janvier, il y avait des gens très visiblement qui avaient l'air compétents et très motivés pour couper. Et visiblement, c'est plus compliqué que prévu. Donc, je voudrais bien comprendre pourquoi c'est plus compliqué que prévu. Est-ce qu'il y a des raisons de corruption derrière, ou est-ce que c'est juste les gens ils veulent éviter de perdre des votes hypothétiques? J'en sais rien. Mais effectivement, c'est une question à régler.
Vous posez une question très grave. C'est en France, par exemple, il y a 65% de la population qui touche de la zone orange, qui est payée par la zone grise.
Ouais.
Donc il y a 60% de la population qui est persuadée qu'elle gagne dans les transferts sociaux.
Ouais.
Mais ils font pas le raisonnement que du coup, les gars qui payent les transferts sociaux, ils deviennent de moins en moins nombreux, et qu'il va y avoir, peut-être qu'ils vont gagner aux transferts sociaux, mais que leur niveau de vie va baisser. Donc, comme ils raisonnent tous dans un gâteau fixe, si je prends plus du gâteau, je gagne.
Oui.
Mais pas si ton gâteau se réduit.
Oui.
Jusqu'au moment où il n'y a plus de gâteau du tout. À ce moment-là, tu as très bien gagné, bravo.
Oui.
Donc c'est une espèce de, d'égoïsme social qui dit je m'en fous parce que c'est les riches qui payent. C'est pas les riches qui payent, c'est toi, couillon.
Ouais.
Ton niveau de vie ne cesse de baisser, c'est à cause de ta connerie.
Ouais.
Tu veux que c'est,
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il voit effectivement, il se voit comme une part d'un gâteau.
Voilà.
Il pense que l'économie, c'est une somme fixe, c'est un jeu à somme nulle, quelque part. Et que si quelqu'un gagne, c'est que lui, il perd. Donc, ils sont persuadés que si Bernard Arnault s'est enrichi de 50 milliards cette année, eux, ils se sont appauvris. Alors, je vous donne une petite nouvelle. Bernard Arnault s'est largement appauvri cette année, jusque-là, en 2025. Je sais pas pour autant qui s'est enrichi dans l'affaire.
Mais non, donc, parce que le cours de bourse a baissé. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la valeur des actifs financiers, c'est comme la surface d'un ballon. Si vous mettez plus d'air dedans, le ballon augmente et vous avez plus de gens riches. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr.
C'est la surface.
Bien sûr.
Et s'il y a moins d'air dans le ballon,
ouais,
les gens riches vont perdre, mais ça ne veut pas dire que les gens pauvres vont gagner.
Oui.
Et au contraire, ils vont perdre encore plus. Donc, je crois que la situation, les social-démocraties, c'est le triomphe de l'imbécilité. Le triomphe de l'imbécilité sur la réalité.
Ouais.
Et je ne sais pas comment ça va se terminer.
Ouais.
Mais
moi, c'est sûr, c'est un grand défi de nos démocraties, parce qu'il y a, globalement, on pourrait diviser les démocraties contemporaines en deux sous-catégories. Les démocraties qui, naturellement, convergent vers le socialisme, en promettant des voies avec des transferts sociaux, et celles qui, je ne sais pas comment, peut-être c'est d'un point de vue culturel, elles y parviennent naturellement et très facilement. Les démocraties comme la Suisse, la Suède, la Norvège, notamment les pays nordiques, arrivent plutôt bien.
Parce qu'elles sont petites.
Ouais.
C'est-à-dire que vous avez...
Sans doute.
Ce n'est pas une question de taille, c'est une question de taille de la population. Ouais. Moi, j'avais fait un indice il y a des années de tous les pays qui faisaient moins de 10 millions d'habitants. Ben, en général, ils étaient bien gérés.
Intéressant.
Il n'y a pas... C'est-à-dire que... Je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'en politique, il y a une loi qu'on pourrait appeler la loi des carrés. C'est-à-dire que si vous avez deux fois plus de population, il vous faut quatre fois plus de fonctionnaires. Si vous avez quatre fois plus de population, il en faut 16 fois plus. Il y a une espèce de... Donc, 10 millions, ça a l'air d'être le truc qui est assez facile à gérer avec un nombre de fonctionnaires. Et puis, vous prenez, dans une ville comme Stockholm, le Premier ministre, il arrive en vélo au bureau... Il n'a pas d'écart de voiture, des trucs, parce que tout le monde le connaît, a été à l'école avec lui. Et tu ne vas pas te prendre pour Louis XIV, quoi, au programme. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une démocratie dans quelque chose qui est supérieur à 10 millions d'habitants ? La question se pose.
Ah oui. Ça, c'est une très bonne question, oui, effectivement. Et la dernière chose que je voudrais évoquer, c'est peut-être sur un temps un petit peu plus léger, c'est quand même le choc culturel, c'est-à-dire que vraiment aux États-Unis la culture a changé, c'est-à-dire que le parachèvement culturel de l'époque Trump, c'est vraiment que la culture woke est en train d'être balayée aux États-Unis.
Alors c'est très intéressant parce que c'est passé aussi dans une période où vous n'imaginez pas la hausse du prestige des grandes universités. C'est-à-dire que moi quand j'avais 20 ans, je me retrouvais, si je voulais aller à Harvard, bon, mm-hmm, ça coûtait cher, mais c'était pas complètement... aujourd'hui, si vous voulez à Duke, Harvard, etc., ça vous coûte 150 000 dollars par an, c'est-à-dire mm-hmm, 600 000 dollars pour une famille normale qui a un enfant et tout. Donc vous avez eu une espèce de montée en puissance, ce que je peux rappeler, la classe social-démocrate. Et aujourd'hui, les grandes universités sont en train de se faire défoncer la gueule par Trump parce qu'elles ont des avantages fiscaux.
Ouais.
Je crois que Harvard a des réserves de portefeuille de l'ordre de 50 milliards de dollars, ce qui est gigantesque. Et surtout, il y a eu un développement inouï de ce qu'on appelle les sciences molles.
Ouais.
La sociologie, la psychologie, l'étude des genres, le truc, le machin. Alors que vous voyez ce qui se passe en Asie. Les universités, c'est que des ingénieurs, des docteurs, que des trucs sérieux. Donc,
ouais,
on a développé une espèce de sous-classe de gens qui prétendent que cette histoire orange, là, ça va durer jusqu'à la fin des temps, et qui,
ouais,
ont un droit d'en vivre sans...
Oui, ils n'ont pas trop de critical race theory en Asie, je crois.
Non, très peu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ce brave Musk a pris le contrôle de Twitter, là, il a viré, je crois, 80% des gens.
Ouais.
Et personne ne s'est rendu compte de rien.
Ouais. Et en fait, c'est marrant, on voit très bien, même d'un point de vue juste utilisateur, comment fonctionne Twitter. C'est-à-dire que, alors de temps en temps, ils font des sortes de tests. C'est-à-dire, sans doute, Musk doit avoir une idée. Il veut absolument effectuer son idée, même si son idée est nulle. Et donc, il le fait. Et donc, sur Twitter, on voit une mise à jour qui s'est faite en 2 secondes. Et après, si tout le monde gueule et que l'expérience utilisateur est en fait plutôt moins bonne qu'avant, et ben, le truc est corrigé la semaine suivante. Et voilà, on en parle.
Et j'ai vu que Twitter, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu que Twitter allait lancer ses propres monnaies.
Ah oui, c'est possible, ouais.
Ils vont lancer leur propre système monétaire de paiement et tout. C'est-à-dire que si Twitter se lance là-dedans...
Non, mais je suis certain que d'ici 5 ans, même sans doute avant, on pourra acheter des actions et sans doute des crypto-monnaies aussi sur Twitter directement.
Directement, mais vous pourrez tout payer sur Twitter. Ça veut dire que le système de paiement centralisé sur le dollar, il est mort. C'est-à-dire que c'est la fin du système de paiement, vous savez, de centraliser dollars et tout. C'est-à-dire que, à partir du moment où c'est eux qui font les arbitrages et tout, ça sera fait. Donc, ça implique aussi un changement de la nature des paiements.
Ouais.
Le système des paiements américain, là, c'est un diplodocus. Il est mort. Il va être tué par ce qui vient de la partie gauche.
Bah oui, mais c'est assez logique en plus de ça, parce que les gens, on les nourrit avec une monnaie de singe. Au bout d'un moment, si le système est un peu efficient et qu'ils se rendent compte, ils vont se dire, bon bah moi je vais vouloir autre chose que
ça, c'est monnaie. Ce qu'avait dit Khrouchtchev à Nixon quand il avait rendu visite, là. Comme il avait payé les gars en Union soviétique, et Khrouchtchev a répondu... Là. On fait semblant de les payer, ils font semblant de travailler, quoi.
Ouais.
Donc on en est là. Donc vous avez tout ce monde-là à droite, orange, qui fait semblant de travailler et qui prend la plus grosse partie de son pognon dans le truc qui travaille.
Ouais.
Ben, à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter, ça.
Ouais. Oui,
donc
c'est
la partie orange a mis en esclavage.
La partie blanche, ouais.
Donc il est temps de libérer les esclaves.
Ouais. Bah ça va être le boulot de Trump. J'espère qu'il y parviendra. J'imagine que effectivement ça doit pas être facile dès le premier coup de couper dans toutes ces dépenses, mais ça va devoir être fait d'une manière ou d'une autre. Il y a pas le choix. C'est une nécessité absolue. Ou alors on continue, on va vers 150% de dette, de dette par PIB. 170, 200%, 250%. Et puis
mais le Japon, ils sont au-dessus de ça, mais ils ont leur dette. Au Japon, c'est la partie orange qui a sa dette dans la partie grise, là. Donc c'est les Japonais qui subventionnent les uns les autres. Mais là, la plus grosse partie de la dette, elle est détenue en dehors des États-Unis.
Donc
il faut que la partie à gauche paye la dette de la partie là qui veut pas se... Ça va pas avoir lieu.
D'ailleurs, c'est ce qui avait lieu là il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, quand il y a eu une petite panique sur la dette américaine avec les taux qui ont commencé à monter. Il semblerait que c'était les Japonais qui ont lâché une partie de la dette. Bon, bah, ça ne se passe pas quand la dette est contenue domestiquement, quoi. Alors, la banque, je crois que la Banque du Japon détient 53% à elle seule de la totalité de la dette japonaise.
Oui, bien sûr. Mais en plus, elle détient aussi 1000 milliards de dollars quasiment de dette américaine.
Ouais, mais je crois que c'est même un peu plus d'ailleurs.
Ce qui m'a fait hurler de rire, c'est quand la Banque du Japon a donné un swap à la Banque centrale de l'Inde en dollars US. J'avais trouvé ça mourir de rire. Ça veut dire que les Japonais garantissaient aux Indiens qu'ils avaient plein de dollars. Si les Indiens avaient plein de dollars, ils étaient prêts à leur enfant.
Ouais. Bon, ils en ont encore beaucoup, mais justement, plus ils en ont, plus ils peuvent en lâcher techniquement. Donc c'est aussi dangereux pour les Américains. Enfin bref.
Donc si vous voulez, on revient, toujours ce que j'essaie de dire, c'est que les pays reviennent à leurs erreurs toujours.
Ouais.
Et donc j'ai une de mes filles, qui est celle qui est à Porto Rico, là, qui me dit, c'est rigolo, elle a 45 ans, je sais pas quel âge. Je suis stupéfiant d'ailleurs. Et elle me dit, plus je vieillis, plus je me rends compte que les stéréotypes qui existent sur les nations, c'est vrai.
Oui.
C'est-à-dire que le français, bon, il est grave.
Oui, oui.
L'allemand, c'est pareil. L'italien, on sait ce que c'est.
Bien sûr, mais la plupart des stéréotypes existent pour certaines raisons.
On se rend compte qu'ils ont vachement raison.
Bah oui, mais d'ailleurs, on parle souvent de préjugés, mais c'est pas vraiment des préjugés, c'est plutôt des post-jugés. C'est vraiment après avoir vu quelque chose, quelqu'un, un comportement.
Absolument. Voilà. Donc je crois que, oui, on est dans une époque où chaque nation a suivi ses propres tendances douloureuses. Oui, la beauté en Suisse, c'est comme ils ont trois ou quatre nations qui se détestent entre eux, ils n'ont pas suivi de préjugés, ils ont continué à travailler, à faire de l'argent.
Bah c'est ça leur préjugé.
C'est que si les Suisses s'occupent pas des Suisses, personne ne s'occupera des Suisses, je crois que c'est ça l'idée suisse.
Oui, sans doute, oui.
Alors que nous, on pense que le monde doit une vie confortable à la France, parce qu'on est quand même la lumière du monde. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Je suis pas sûr.
Peut-être que ce fut le cas, mais je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Enfin, bon. Et en tout cas, si on veut que ce soit le cas, il va falloir faire un petit peu de ménage dans pas mal de compartiments. Enfin bref, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On est quasiment 400 000 abonnés sur la chaîne, je crois.
399 000.
399 000, autant dire, on est à ça. Peut-être que vous serez le 400 millième, techniquement.
Ah, si on sait, vous pouvez savoir qui c'est, on vous fera un cadeau, mais je crois pas
que... Ah ouais, je crois que c'est compliqué. À mon avis, on pourra pas savoir. Et donc,
on par peut contre, en créer un bidon, non?
On recrée un bidon, ouais, mais oui, mais du coup, faudrait compter d'une manière un peu différente. Je sais pas comment on y parviendrait, mais ouais, je peux pas avoir la liste malheureusement. Sinon, peut-être on vous enverrait un petit cadeau. Mais c'est toujours sympathique de votre part de vous abonner à la chaîne, de regarder aussi les autres vidéos, même les anciennes. Et sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Institut de Liberté.